Hebdo Région. 7 jours dans les Pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité des Pays de la Loire résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans votre Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions du Mans, d'Angers, Nantes, Laval et La Roche-sur-Yon. Ce week-end, la plupart des chrétiens de la région, comme partout dans le monde, vont fêter la résurrection du Christ à travers la fête de Pâques. Mais avant, ils vivent aujourd'hui le samedi saint, un temps d'attente pour les croyants, mais pas pour le Christ, nous dira Colette Mahé de RCF Le Mans. Et dans le Maine-et-Loire, les acteurs de l'enseignement catholique ont posé cette semaine leurs conditions à l'application de la réforme des rythmes scolaires proposée par le gouvernement. Les explications avec Élise Lemaire de RCF Anjou. Le débat public autour du projet de futur parc éolien offshore a été lancé cette semaine en Loire-Atlantique. Une démarche regardée avec minutie par tous les camps pour que ne soient pas renouvelées les erreurs de Notre-Dame-des-Landes. Nous verrons en quoi avec Julien Chailloux de Fidélité Nantes. Nous parlerons aussi d'énergie renouvelable avec Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Le conseil général de Mayenne vient de lancer le développement de bornes de recharge pour voitures électriques à travers tout le département. Nous terminerons enfin notre tour de région en Vendée avec Fanny Brevet. Elle nous parlera de football et d'une compétition internationale qui s'ouvre ce week-end à Montaigu.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et on commence tout de suite cette émission avec Colette Mahé dans les studios de RCF Le Mans. Bonjour Colette.
Bonjour Damien et bonjour à tous.
Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité de cette semaine en Sarthe. Mais avant, premier sujet, ce sera votre dossier de la semaine. Nous parlons de cette semaine sainte qui va prendre fin ce week-end avec la fête de Pâques.
Oui, et je vous propose d'écouter le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général. Il nous précise le sens du samedi saint. On explique souvent ce qu'est le jeudi saint, le vendredi saint, et on passe tout de suite à Pâques. Pourtant, le samedi saint a une signification particulière.
C'est la journée normalement du silence. Alors pour ceux qui sont dans nos paroisses, en général ils disent c'est pas tellement le silence, c'est plutôt l'activisme parce qu'on prépare pour le soir, etc.
Notamment les baptêmes, la veillée la célébration, pascale.
La veillée pascale. Mais c'est quand même cette part du grand silence. Et le moment où on peut dire, mais où est Dieu, quoi? Dans la mort, où est passé Dieu? Et les premiers chrétiens se sont tout de suite posé cette question-là. Et on a des très beaux textes du tout début du christianisme où les chrétiens se disent, mais qu'est-ce que fait Jésus le samedi saint? C'est pas possible qu'il soit dans le tombeau sans rien faire. Je trouve ça très beau, ils disent. Un Jésus qui est dans le tombeau à dormir du sommeil de la mort, c'est pas possible. Donc dans l'Église, on se dit, c'est le moment où Jésus va rechercher ceux qui sont déjà endormi dans la mort. C'est pour ça que dans le credo, on dit il est descendu aux enfers. C'est ça que ça veut dire, hein, les enfers. Il est parti rechercher ceux qui étaient déjà dans la mort, leur disant mais on n'est pas fait pour la mort, on est fait pour la vie. On a de magnifiques textes. Donc faut pas chuinter, je veux dire, le samedi saint, parce qu'on passe tout de suite, nous, à la vigile pascale, mais qui est dans la nuit du samedi au dimanche. Mais avant, il y a le temps du silence et le temps où Jésus va rechercher ceux qui sont dans la mort physique, mais aussi toutes nos petites morts à nous. Il vient nous rechercher ici, si l'on le veut.
Et puis donc il y a la veillée pascale avec le baptême d'adultes.
C'est le temps de la grande fête, hein. Vraiment, on baptise les adultes à ce moment-là et chaque chrétien est invité à renouveler son engagement dans le baptême. C'est la fête de notre baptême. Là encore, on perçoit la bonté de Dieu qui dit chaque année, je te repose la même question, est-ce que tu veux marcher à ma suite, toi?
Et en Sarthe, ils seront 32 adultes, 23 femmes et 9 hommes de 18 à 81 ans à recevoir le sacrement du baptême et de l'Eucharistie lors de la veillée pascale. D'origines diverses, leurs chemins sont uniques, quelquefois semés d'embûches, mais tous ont fait l'expérience d'une rencontre qui allait les mener jusqu'à cette démarche dans la foi.
Dans le reste de l'actualité, en Sarthe, Colette, le nombre de chômeurs est en hausse en Sarthe avec plus de 15% en un an.
Ce sont les chiffres donnés par Pôle emploi pour toutes les catégories. Nous comptons donc à fin février plus de 43 000 chômeurs dans notre département, un taux de chômage supérieur à la région des Pays de la Loire qui est de 10,4%. Les plus touchés sont les moins de 25 ans et les plus de 50 ans.
En sport, l'offre de reprise se précise pour le Mans FC.
Le conseil d'administration du Mans FC a eu lieu jeudi soir. Même si tout n'est pas réglé dans les détails, le club devrait repartir. Dans un communiqué, Henri Legarda se dit prêt à céder l'intégralité de ses parts pour 1 euro. Il a pris cette décision, dit-il, dans l'intérêt supérieur du club et dans le seul et unique but de garantir la pérennité du Mans FC. Henri Legarda détenait 55% des parts et était président du club depuis 10 ans. Rappelons quand même que le club a un déficit de 7 500 000 100 000 €. Et parmi les repreneurs, le groupe Veolia serait prêt à donner 3 millions, les investisseurs locaux 2 millions et la ville du Mans 2 millions également en achetant les locaux administratifs de la Pinsenardière. Mais c'est le 4 avril que le club devrait passer devant la direction nationale de commission de gestion du football français.
Enfin, la photographie de l'année est une photo de Greenpeace.
Oui, et elle a été dévoilée en fin de semaine dernière à l'abbaye de Lépau, près du Mans, lors des trophées de la photographie 2013. Alors sur cette photo, on voit un goéland qui a la tête prise dans un filet de pêche, mais un autre goéland essaye de lui enlever. Bien sûr, c'est un effet d'optique, mais le cliché a marqué le jury. Le photographe Pierre Glaise a reçu 10 000 € de matériel. C'est aussi un beau coup de publicité pour son commanditaire, l'ONG Greenpeace. D'autres professionnels ont été primés pour des photos de mariage, de mode ou de sport. Vous retrouverez leurs clichés dans le supplément du magazine Profession Photographe, un magazine sartois.
Merci beaucoup Colette Mahé pour cette actualité sartoise et très joyeuse fête de Pâques à vous.
Et soignez votre voix, Damien.
Je vais tout faire pour.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Après la Sarthe, nous voici en Anjou pour retrouver Élise Lemaire de RCF Anjou. Bonjour Élise.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on commence l'actualité du Maine-et-Loire avec l'enseignement catholique qui a posé ses conditions cette semaine au fait d'appliquer la réforme sur les rythmes scolaires en primaire.
Des conditions posées aux mairies qui souhaitent appliquer la semaine à 4 jours et demi dès 2013. En effet, favorable à une refonte des rythmes scolaires, le CODIEC, qui rassemble tous les acteurs de l'enseignement catholique du département, a fait savoir dans un courrier aux familles qu'il préférait attendre la rentrée 2014 pour trouver les réponses à toutes les questions que soulève cette réforme, surtout en matière de mise en œuvre. Les problématiques non résolues sont nombreuses. Juridiques, d'une part, qui est responsable des enfants pendant le temps périscolaire, s'il a lieu dans les écoles catholiques, qui restent des espaces privés, mais aussi et surtout problématiques financières, quand la majeure partie des communes du département se dit vouloir traiter de la même manière les enfants du public et du privé. Philippe Triot, le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Maine-et-Loire.
Sur le choix de d'accompagner tous les enfants, se pose la question du financement. On a évalué avec les services de l'UDOGEC la mesure à 140 € par élève, évidemment, exclusivement quand on quantifie son côté animation, on ne parlera pas des charges connexes. Si on a aujourd'hui une prise en charge par nos établissements, donc par nos parents d'élèves d'une telle mesure, le coût moyen de la contribution scolaire dans nos écoles est de 180 € par an. C'est donc une augmentation pérenne de 80%. Donc on voit bien que ça paraît être délicat et difficile d'envisager un financement par les parents d'élèves, au risque évidemment de mettre nos établissements en difficulté et de faire que les parents ne choisiraient plus nos écoles. Non pas pour la qualité de ce qu'elles y trouvent et la qualité des projets qui leur sont proposés, pour l'identité de l'école, mais bien pour des raisons à ce moment-là économiques. Donc c'est un souci qui nous a été partagé par les maires que nous avons pu rencontrer et qui nous traverse évidemment, parce que si le cadre qui est posé par la loi est celui-là, eh bien il faudra bien trouver ces sources de financement et se poser à ce moment-là la question de leur impact si elles n'existent pas sur nos établissements.
L'enseignement catholique n'est pas opposé à tester des expériences dès 2013, dès lors où tous les moyens sont réunis. Reste que les communes qui financent déjà l'enseignement catholique du Maine-et-Loire verraient leur facture, elle aussi, augmenter de 30% avec cette réforme. Et à noter enfin que si l'enseignement catholique se permet de poser ces conditions, c'est que d'après le décret, l'école privée n'est pas obligée, comme l'est le public, d'appliquer la réforme. Même si elle a toujours défendu la semaine de 4 jours et demi.
Le chômage presque record impacte aussi les Pays de la Loire et le Maine-et-Loire.
Même si la région reste parmi les moins touchées, avec une hausse de 12,6% sur un an, elle compte sur son territoire fin février 153 173 demandeurs d'emploi. Dans ce lot, le Maine-et-Loire est le deuxième département le plus touché après la Loire-Atlantique, avec 35 515 personnes, mais seulement le troisième au regard de la plus forte hausse. Hausse en un an. Côté bonnes nouvelles économiques, le groupe Royer, numéro 1 de la distribution de chaussures en France, travaille sur un projet de recentrage de ses activités sur Cholet. Ce seraient les activités et marques Mode 8 et Aster qui seraient concernées. Dès le début, le patron du groupe avait annoncé que le site des Mauges pourrait accueillir jusqu'à 250 personnes, aujourd'hui occupées que par une centaine d'employés.
Le procès des vendangeurs s'est clos jeudi sur la reconnaissance du meurtre, mais sans désigner de meurtrier.
Les jurés de la cour d'assises assises du Maine-et-Loire n'ont en effet finalement pas suivi les réquisitions de l'avocat général, les trois principaux accusés ont été condamnés à 18 et 15 ans de prison ferme au lieu des 30 demandés par la partie civile. Reconnus coupables de séquestration avec actes de torture et de barbarie à l'encontre de la victime retrouvée pendue il y a 5 ans dans un appentis de Saint-Lambert-du-Latay, la cour a reconnu ne pas avoir suffisamment d'éléments pour distinguer qui parmi les trois avait été le meurtrier. Une décision difficile pour la famille d'Aurélien Piauget qui restera avec ses questions, a déclaré sa mère. Madame Piauget qui s'est toutefois félicitée que le meurtre ait été reconnu par la cour. Les autres accusés acquittés pour le meurtre ont été reconnus coupables de non-assistance à personne en danger.
Et on termine avec un nouveau festival de cinéma proposé à Cholet depuis hier, festival autour de la littérature.
Une première au niveau national puisqu'aucun festival n'avait encore eu l'idée de faire le lien entre cinéma et œuvres littéraires. Son nom, du best-seller au box-office, n'est pas très sexy, mais a le mérite d'être clair. Pendant 10 jours, ce sont 23 films qui seront présentés au public. Un double défi donc pour ce tout jeune festival, celui de faire aimer le cinéma, mais également de faire découvrir ou aimer des œuvres littéraires, toutes périodes confondues. Parmi les œuvres projetées, deux versions de La planète des singes, Mademoiselle Chambon, La princesse de Montpensier, Fahrenheit 451 ou bien encore Zazie dans le métro. Et enfin, à noter que durant ce festival sera projeté en avant-première l'adaptation du roman de Daniel Pénac, Au bonheur des ogres.
Merci beaucoup Élise Lemaire pour cette actualité du Maine-et-Loire. Bon week-end à vous, joyeuse Pâques et à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et direction Nantes maintenant pour rejoindre Julien Chailloux. Bonjour Julien.
Bonjour Damien.
Vous allez nous parler au nom de Fidélité Nantes de l'actualité en Loire-Atlantique. Et cette semaine, dans votre département, c'est l'implantation d'un parc éolien offshore qui crée le débat.
Oui Damien, après l'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, un autre vaste projet d'aménagement du territoire crée des remous dans le département. Des remous, c'est le bon mot, puisque le projet concerne un parc éolien offshore qui doit être implanté au large de Saint-Nazaire, plus précisément à 12 km des côtes. Alors voici quelques chiffres sur ce chantier qui donne le vertige. Le parc comprendrait 80 éoliennes hautes de 170 mètres qui produiraient 6 mégawatts chacune. Elles fourniraient l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de plus de 700 000 personnes. Alors sur cette opération, le débat public, obligatoire lorsqu'il s'agit des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national, s'est ouvert la semaine dernière. Et hier, une nouvelle étape s'est enclenchée. La réunion publique d'ouverture s'est tenue à Saint-Nazaire. Un moment important pour les opposants qui veulent faire entendre leurs doutes et inquiétudes. C'est le cas de Guy Bourlès, le président de la Ligue de protection des oiseaux en Loire Atlantique. On l'a reçu ce mercredi sur nos antennes à la veille de cette première consultation. Il nous a confié que pour lui, ces réunions pouvaient conduire à de véritables avancées sur le projet.
Moi, j'ai participé au débat public sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui n'était pas très bien conçu. Enfin, c'était un des tout premiers, donc on a un peu essuyé les plâtres. Mais disons qu'il n'était pas très, très bien conduit en termes d'alternatives. Là, on espère que ce ne sera pas le cas. On a des garanties, on a déjà eu des contacts importants plusieurs fois avec la commission du débat public. A priori, on a des garanties que ça se passe bien, parce que ça permet d'avancer un certain nombre d'idées. Et si on demande, ce qui va être le cas, si on demande des études complémentaires pour avoir une connaissance plus précise de l'environnement sur lequel on s'installe, la commission du débat public peut diligenter ces études complémentaires plus approfondies. Donc il est possible qu'on puisse obtenir des choses intéressantes. Et puis ça permet évidemment à tout le monde de savoir ce qui va se passer au large, parce que c'est une modification du paysage assez importante de mettre 80 machines de cette taille-là au large de la boule, c'est bien évident. Donc il faut absolument que tout le monde s'exprime, comprenne de quoi on parle et connaissent tous les enjeux pour avoir une idée précise.
Alors, en dehors de cette réunion d'ouverture qui avait lieu hier soir à Saint-Nazaire, 9 autres rendez-vous sont programmés. Chacun de ces moments sera l'occasion d'aborder un sujet spécifique du projet. Quant à la dernière réunion publique, elle est prévue pour le 16 juillet prochain.
L'autre grand débat dans votre département, on le connaît, c'est celui autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et il a connu cette semaine un énième rebondissement.
Oui, une décision très attendue était prise mardi par le tribunal de Saint-Nazaire, l'autorisation de l'expulsion d'opposants qui occupent des cabanes au lieu-dit la Châtaigneraie, endroit emblématique de la lutte. Mais dans les faits, les opposants à l'aéroport du Grand Ouest ne devraient pas être délogés tout de suite car les interventions des forces de l'ordre sur le site sont actuellement suspendues. Elles ne doivent reprendre qu'à la suite de la remise du rapport de la commission du dialogue qui n'est prévue qu'en début avril.
L'actualité en Loire-Atlantique cette semaine est aussi marquée par l'annonce d'une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises.
Oui, une annonce qui a été faite aussi mardi à Nantes par Christophe Clergeot, le premier vice-président du Conseil régional. Mais bon, ce sont les 5 départements de la région qui sont concernés par cette initiative intitulée en Pays de la Loire « Les petits projets font les grands succès ». Un nouveau projet donc qui consiste à aider les TPE et PME de la région en leur apportant une aide financière pour la réalisation de leur ambition. L'aide pour les entreprises bénéficiaires pourra atteindre jusqu'à 25 000 euros en fonction du coût du projet initial. Les projets des territoires ruraux, périurbains et des quartiers en difficulté seront accompagnés prioritairement. Pas moins de 500 entreprises de la région pourront bénéficier de cette aide proposée par la région.
Enfin, le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes a fêté sa première année d'existence.
Ce lieu installé sur les bords de Loire, qui rappelle que Nantes a été le premier port négrier de France, est consacré à la traite négrière, aux esclavages d'hier et d'aujourd'hui. Premier constat, les Nantais se sont appropriés le monument et les visiteurs exercent sans tabou un examen de mémoire collective. Et selon la direction du site, les résultats en termes de fréquence sont positifs.
Merci beaucoup Julien pour cette actualité de la Loire-Atlantique. Bon week-end à vous.
L'Hebdo-Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Quatrième étape de cette Hebdo-Région, direction Laval, où nous retrouvons Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
La Mayenne qui mise sur le développement de la voiture électrique.
Et oui, car ce ne sont que des prévisions, mais on estime que dans le département, il y aura 2000 à 2500 véhicules électriques dès 2015 et plus de 10 000 en 2020. Alors dans un premier temps, ce sont seulement 60 à 80 bornes de rechargement qui vont être installées dans le département à partir de 2014. Et si la Mayenne est donc l'un des premiers départements de France à se lancer ainsi dans le déploiement de bornes test de rechargement, c'est aussi par volonté d'accélérer l'émergence du véhicule électrique en France, comme nous le dit Alain Ménager, le directeur du syndicat d'électricité et de gaz de la Mayenne, à l'origine de l'initiative.
Oui, parce qu'on pense bien que l'émergence du véhicule électrique ne sera possible que si l'usager a la possibilité de trouver des points de rechargement sur le domaine public suffisamment bien dimensionnés de telle sorte à lui garantir le retour à domicile tous les jours.
Avec ce test, c'est donc une action volontariste du syndicat d'électricité et du Conseil général de la Mayenne. L'avenir dira si le déploiement du véhicule électrique est bien au rendez-vous et s'il faut installer plus de bornes. Alain Ménager pense quant à lui quels seront le deuxième véhicule du foyer.
On imagine bien un véhicule de type principal qui sera en mode de fonctionnement thermique et le second véhicule qui soit pour des déplacements journaliers pour le travail qui serait du mode électrique. Et c'est ce parc-là de 60 000 véhicules qui pourrait nous conduire à émergence de 2015 à un parc de l'ordre de 2600 véhicules électriques et à horizon 2020, 10 000 à 11 000 véhicules électriques.
Alors dans plus de 80% des cas, les particuliers rechargeront leur voiture à leur domicile. L'objectif de ces 60 à 80 bornes installées dans tout le département sera de permettre la recharge des batteries aussi lors des déplacements.
Les usagers font à peu près, journalièrement, font 65 km de déplacement. Donc les véhicules électriques ayant une autonomie de l'ordre de 100 à 160 km selon la saison, selon l'utilisation du véhicule. L'idée, c'est de concentrer dans un premier temps l'émergence des bornes sur les flux de migration de véhicules qui sont les plus importants sur le territoire de la Mayenne, de telle sorte à garantir cette possibilité de recharge quand on va au travail et dans les emplacements où les stationnements sont les plus longs pour les usagers. Sachant que pour un véhicule, selon le type de bornes qui seront installées, les possibilités de recharge seront de 7 heures ou d'une heure et demie, selon le type de prise qu'on aura choisi.
À noter d'une part que l'État soutient aussi l'émergence du véhicule électrique en offrant une prime de 7000 euros pour l'achat d'une voiture hybride ou électrique. Et d'autre part que c'est une start-up lavalloise, Green Park, qui a conçu le KiwiPass, la carte de paiement permettant de recharger les voitures électriques sur tout type de bornes.
Dans le reste de l'actualité mayennaise, la semaine a été marquée par plusieurs manifestations à Laval.
Oui Damien, tout d'abord, 300 éleveurs mayennais ont manifesté dimanche soir dans les rues de Laval pour alerter à nouveau Guillaume Garot, ministre de l'Agroalimentaire, sur leurs difficultés financières liées à la flambée des prix des matières premières et donc l'augmentation du coût des aliments pour nourrir leur bétail. Manifestation toujours dans les rues de Laval mercredi, et cette fois ce sont 200 parents d'élèves qui manifestaient contre la fermeture annoncée de 16 classes à la rentrée prochaine, essentiellement dans des communes rurales. Et enfin mercredi également, ce sont une trentaine centaine d'apiculteurs amateurs ou professionnels qui dénonçaient quant à eux l'utilisation des pesticides qui provoquent une surmortalité de 30% de leurs abeilles.
Et pourtant, malgré ces mouvements d'humeur, Samuel, quelques bonnes nouvelles du côté de l'emploi en Mayenne cette semaine.
Tout d'abord, c'est la société MCB Industries de Château-Gontier qui a trouvé repreneur, spécialisée dans la fabrication de composants pour l'aéronautique notamment. Elle emploie 250 salariés et une trentaine d'intérimaires. Son actionnaire principal depuis 20 ans, Alain Bovis, à 62 ans, souhaitait se retirer. Et c'est officiel depuis mercredi. Le groupe américain Vichet reprend donc MCB Industries et ses salariés. Et à Château-Gontier toujours, c'est l'entreprise de plomberie, chauffage et électricité Dormet qui était en redressement judiciaire depuis un an et qui est également reprise par Philippe Maligorne, gérant de plusieurs entreprises du bâtiment en Mayenne. Bonne nouvelle donc aussi pour ces 14 salariés et leurs familles.
Enfin, pour terminer, le Vendredi Saint, célébré comme il se doit ce vendredi dans votre département.
Oui, tout d'abord à Laval, où pour la quatrième fois, le chemin de croix a traversé les rues de la ville entre l'église Saint-Vénérand et la cathédrale. Ils étaient plus de 500 à commémorer ainsi la passion et la mort du Christ. La Passion du Christ, qui était aussi jouée au même moment par des bénévoles, vendredi à 18h30 en 15 tableaux, en l'église Notre-Dame d'Ambrières-les-Vallées. Plus ludique ce dimanche et lundi après-midi, les magnifiques jardins des Renaudis à Colombier-du-Plessis dans le Nord-Mayenne accueillent les enfants de moins de 12 ans pour une grande chasse aux œufs de Pâques, organisée en partenariat avec la chocolaterie Montbana Dernier. Voilà Damien pour l'essentiel de l'actualité en Mayenne cette semaine. Joyeuse Pâques à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Samuel, joyeuse Pâques à vous et à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Dernière étape de cette hebdo-région, direction La Roche-sur-Yon, où nous retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on commence cette actualité de votre département avec, dans le cadre de la restructuration du groupe Terra Lacta, la laiterie de Mareuil-sur-Lay, qui emploie une centaine de personnes, fermera en 2014.
Oui, il s'agit d'un véritable coup de massue pour les salariés qui lundi se sont relayés toute la journée pour filtrer l'accès de leur usine. Annonce qui inquiète les députés socialistes vendéens Sylviane Bulteau et Hugues Fourage qui ont saisi les ministères concernés, ceux de l'agriculture et du redressement productif.
7 420 587 euros de dotation d'équipement de territoires ruraux pour la Vendée.
Oui, c'est le montant de l'enveloppe pour les collectivités locales en 2013, soit une hausse de 5% par rapport à 2012. Les dotations permettent aux collectivités de mener à bien des projets tels que la construction d'écoles ou de restaurants scolaires. Les travaux concernent trois secteurs, les bâtiments communaux, les bâtiments scolaires et périscolaires et le développement social, c'est-à-dire les logements sociaux ou encore la restructuration d'EHPAD. Grâce aux 7 420 000 euros de dotation, 92 projets ont été retenus sur les 112 déposés par les maires de Vendée. Au total, 33 millions d'euros de travaux seront réalisés en 2013 dans les arrondissements de La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et les Sables-d'Olonne. Municipale 2014, Brigitte Neveu sera candidate pour le Front National à La Roche-sur-Yon. C'est la première fois que le parti de Marine Le Pen présentera une liste au vu des élections municipales dans la ville-préfecture. Âgée de 69 ans, la secrétaire départementale du FN en Vendée avait créé la sensation en se qualifiant au deuxième tour des élections cantonales à Talmont-Saint-Hilaire, son fief, en 2011.
Et nous passons maintenant à votre dossier. Une question: qui pour succéder au Portugal et à Bordeaux au palmarès du Mondial de football de Montaigu ?
La 41e édition du tournoi s'est ouverte mardi soir avec le début du Challenge Nation. 8 équipes composées de joueurs âgés de 16 ans. Et cette année encore, la compétition s'exporte car en plus du territoire de terre de Montaigu, des rencontres se disputent à La Roche-sur-Yon, aux Essarts et à Beauvoir-sur-Mer. Les spectateurs ont déjà pu découvrir un plateau de qualité, comme le précise Michel Allemand, le directeur général du Mondial.
On a eu l'opportunité d'avoir les Pays-Bas et la Turquie qui ne sont pas venus depuis 15 ans, les Allemands qui ne sont pas venus depuis 4 ans et le Chili pour la première fois. Donc au bout de 40 ans, on peut trouver toujours des nouvelles choses.
Avec les nations que vous venez de nous citer, on se rend compte, hein, la dimension de haut niveau international est conservée cette année encore.
Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance, hein, ce que je disais tout de suite, d'avoir pu composer ce plateau. C'est vrai que on essaye de composer en pleine harmonie entre le football et la situation économique aussi, parce que bon, les partenaires, on a cette chance-là, nous suivent, mais c'est plus difficile que c'était. Donc il faut s'arranger avec certaines fédérations pour les prises en charge d'hébergement. Donc on fait une mixité, je dirais, entre le sportif et l'économique. Et on est arrivé à ce plateau cette année sans problème.
12 équipes s'opposent depuis hier dans le Challenge Club. Des centres de formation français venus avec leurs joueurs âgés de 17 ans. Et notons la participation de 3 académies du Japon, d'Arabie Saoudite et de Russie, ainsi que de l'équipe Foot Afrique Solidaire soutenue par la Ligue des Droits de l'Homme. Pour ces jeunes footballeurs, participer à ce tournoi est une réelle opportunité.
C'est une chose importante, ça peut être un petit démarrage de carrière. Bon, ils sont déjà sélectionnés dans leurs équipes, mais bon, contrairement bien souvent à quand ils jouent en championnat dans leur club respectif, ils jouent devant 50 spectateurs ou 25 ou les familles. Là, bon, c'est complètement différent. Sur tous les stades, il y a un petit peu de monde suivant les matchs et tout ça. Et puis les confrontations avec différents footballs. Notre force aussi, c'est de pouvoir présenter pendant ce tournoi, même si cette année, bon, c'est une exception, il n'y a pas de pays africains, d'avoir cette diversité de football. On ne joue pas de la même façon au Japon, au Chili, qu'aux Pays-Bas ou qu'au Portugal. Et ça, c'est très, très intéressant pour les jeunes.
Les finales se joueront lundi au stade Maxime Bossis. J'ajoute que la deuxième édition de la Foire du Mondial est programmée du 30 mars au 1er avril. Auprès du Théâtre de Tali, 80 exposants sont présents. L'entrée est gratuite. Et puis les résultats définitifs du Téléthon sont tombés. Au total, 88 156 400 euros ont été donnés pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Dans la région, le Téléthon 2012 a recueilli 5 156 460 euros, dont 1 081 277 euros pour la Vendée.
Voilà des chiffres bien précis. Merci beaucoup Fanny Brevet. Bon week-end à vous et très joyeuse Pâques.
Merci à vous aussi.
C'est la fin de cette hebdo région réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.